Anton Tchekhov, ma femme. J'ai reçu cette lettre. Monsieur, pas loin de chez vous, et notamment dans le village de Pestrovo, il se passe des faits bien tristes et que je considère comme mon devoir de porter à votre connaissance. Tous les paysans de cette localité avaient vendu leurs maisons et leur mobilier pour aller s'établir en Sibérie dans le gouvernement de Tomsk. Mais, faute d'argent, ils n'avaient pu atteindre le but de leur voyage et ils avaient dû revenir ici. Bien entendu, ils n'ont plus rien, par ici, qui soit à eux. Tout appartient maintenant à d'autres. Ils ont dû s'installer à 4 et 5 familles dans une même isba, ce qui porte la population d'une maison à 15 personnes des deux sexes, sans compter les petits-enfants. Résultat, un manque de vivres, la famine, et finalement une épidémie cruelle de typhus. Tout le monde est malade. L'infirmière dit « Quel spectacle a-t-on en entrant dans ces isbades, tous malades ?» Tous ont le délire. Les uns rient aux éclats, les autres grimpent sur les murs. Dans ces maisons, l'air est suffocant et personne pour apporter de l'eau et pour en donner aux malades. On se nourrit de pommes de terre abîmées par la gelée. L'infirmière et M. Sobol, le médecin du Zemstvo, n'y peuvent rien, attendu que, avant d'administrer des médecines, c'est du pain qu'il faudrait donner aux malades, et il n'y a pas de pain. L'administration locale refuse d'intervenir, disant que ceux de Pestrovo, ayant quitté la région et s'étant inscrits dans le gouvernement de Tomsk, relève maintenant de l'administration de ce gouvernement-là. Du reste, là, notre manque d'argent. En vous informant de ces faits, et connaissant vos sentiments d'humanité, je vous prie d'apporter du secours à ces malheureux au plus tôt. Votre dévoué. La lettre ne portait aucune signature. Elle était écrite évidemment par l'infirmière elle-même ou par ce médecin au nom de Bette. Les infirmières et médecins de Zemstvo se convainquent chaque jour, depuis de nombreuses années, qu'ils n'y peuvent rien, mais n'en continuent pas moins à toucher des appointements constitués avec l'argent de ce que, pour toute nourriture, n'ont que des pommes de terre gelées. Avec cela, ils s'arrogent le droit de juger si je suis humain ou si je ne le suis pas. Importuné par cette lettre anonyme, incommodé par l'intrusion de je ne sais quel moujik qui venait tout le temps à l'office et s'y mettait à genoux, outre aussi de ce que, la dernière nuit, on eut volé dans mes magasins 20 sacs de farine après avoir préalablement défoncé le mur, troublé enfin par toute cette atmosphère pénible qu'entretenaient encore les constantes conversations, les journaux et aussi le mauvais temps, je travaillais sans entrain et j'avançais mal dans ma besogne. J'écrivais une histoire des voies ferrées. J'avais à consulter une foule de livres rares et étrangers, une multitude de brochures, d'articles, de revues. J'avais à calculer, à supputer, à compulser des logarithmes, à réfléchir, à écrire, à relire et à recalculer. Mais à peine prenais-je un volume ou me mettais-je à réfléchir, que mes idées commençaient à se brouiller, mes yeux se plissaient, et m'étant levé avec un soupir de mon bureau, j'arpentais les chambres spacieuses de ma grande et pratique, presque déserte maison de campagne. Et quand j'en avais assez, je m'arrêtais dans mon cabinet devant une croisée, et je regardais, par-dessus la vaste cour de mon habitation, par-dessus l'étang bordé d'un bois de jeunes bouleaux, et par-dessus les champs couverts d'une neige tombée dans la nuit et qui fondait, je regardais à l'horizon, sur une colline, une poignée de sombres isbas, tout descendait en zigzag à travers les champs tout blancs, une route noire et boueuse. C'était justement Pestrovo, ce village au sujet duquel m'écrivait mon correspondant anonyme. Sans les corneilles qui tournoyaient avec des cris autour de l'étang, et des champs, en prostiquant non, de la pluie ou de la neige encore, et sous les coups de marteau qui venaient d'un hangar de charpentier, Ce petit monde autour duquel on faisait en ce moment tant de bruit, il semblait comme un lac mort, tellement il était calme, silencieux, inerte, plongé dans l'immobilité et dans l'ennui. L'inquiétude m'empêchait donc de travailler. Était-ce bien de l'inquiétude, pourtant? N'était-ce pas plutôt quelque dépit? En effet, j'avais quitté de propos délibérés une situation au ministère des Travaux publics. J'étais venu m'installer ici, dans cette campagne, pour pouvoir à loisir m'adonner à mes travaux scientifiques, à mes études sur les questions sociales, rêve que je caressais depuis si longtemps. Et voilà qu'il fallait mettre tout cela de côté et ajourner travaux et études pour m'occuper exclusivement des moudjiks. Et c'était là une chose inévitable. Les moudjiks sur lesquels la disette de la famine s'était abattue ne pouvaient, oh j'en étais convaincu, attendre une aide efficace de qui que ce fût dans le district. Moi seul pouvais les secourir utilement. Et j'étais entouré d'êtres peu ou pas du tout instruits, peu cultivés, indifférents et pour la plupart malhonnêtes, tandis que les autres, ceux qui étaient honnêtes, étaient peu sérieux, légers, comme par exemple ma femme. Compter sur des gens pareils était impossible. Abandonner les paysans à leur sort ne l'était pas moins. Je n'avais donc pas d'autre ressource que de me soumettre à la nécessité et de m'occuper moi-même des moudjiks. Je décidai avant tout de faire un don de 5 000 roubles au profit des affamés. Mais cette résolution, loin de diminuer mon inquiétude, ne fit que l'aggraver. En me tenant auprès de la fenêtre ou en allant et venant dans mon appartement, une question surgissait devant moi qui ne laissait pas de me tourmenter. Mais de quelle façon employer cet argent? Faire acheter de la farine et s'en aller la distribuer dans les isbas, une tâche pareille était au-dessus des forces d'un seul homme, sans compter qu'on risquait fort, dans ces conditions, de donner à des gens qui n'étaient pas dans le besoin, et même à des coquins. Et d'autre part, je n'avais aucune confiance dans les représentants des pouvoirs publics de la localité. Tous ces fonctionnaires étaient de jeunes hommes sans expérience, dénués, comme toute la jeunesse contemporaine, de tout idéal, mais pourvus, en revanche, d'une forte dose de matérialisme. Quant aux administrations du district et des communes, à tous ces bureaux cantonaux et locaux, eux aussi ne m'inspiraient qu'un médiocre désir de m'adresser à eux, car je les savais corrompus, mettant en coupe réglée les fonds qui leur arrivaient du trésor ou des Zetsvaux, et prêts à happer au passage toutes les autres sommes. J'eus un moment l'idée d'inviter chez moi mes voisins, les châtelains, les propriétaires fonciers, afin d'organiser avec eux, dans ma maison, une sorte de foyer d'où pourraient converger tous les dons, se répartir les subsides et s'élaborer les dispositions nécessaires. Une semblable organisation, qui supposait de fréquentes délibérations et en même temps un contrôle sérieux, répondait parfaitement à mes vues. Mais je songeais au déjeuner, au dîner, au souper, que cela entraînerait, à tout ce bruit, à tous ces bavardages interminables et oiseux, bref, au mauvais genre que cette société bariolée de petites provinces apporterait dans ma maison. Et je me hâtais de renoncer à mon projet. Encore moins pouvais-je attendre quelque secours des gens qui m'entouraient chez moi. De la famille de mon père, jadis nombreuse et bruyante, il ne restait qu'une épave, l'ancienne gouvernante, Mademoiselle Marie, une créature absolument insignifiante. C'était une vieille fille d'environ 70 ans, petite et proprette, vêtue d'une robe gris clair, coiffée d'un bonnet à ruban blanc et ressemblant vaguement à une poupée de porcelaine. Elle était continuellement assise dans le grand salon à lire quelques livres. Ce jour-là, chaque fois que je passais devant elle, sachant les réflexions qui me tourmentaient, elle me disait « Que voulez-vous, Paul? J'ai toujours répété que ce serait ainsi. C'est moudjik. Mais vous n'aviez qu'à les juger d'après vos domestiques. Ma propre famille, c'est-à-dire ma femme Natalia Gavrilovna, demeurait à l'étage au-dessous du mien et occupait tout l'appartement. Elle mangeait, dormait, recevait ses relations chez elle, en bas, sans aucunement s'inquiéter de savoir comment je mangeais et dormais, moi, et qui je recevais chez moi. Nos rapports réciproques étaient simples, point tendus, mais froids, sans vie et sans animation. Des rapports de gens qui se sont depuis longtemps éloignés l'un de l'autre, au point que même leur vie matériellement si proche n'a pu s'établir ou maintenir entre eux un lien d'aucune espèce. Il y avait longtemps que je n'avais plus pour Natalia Gavrilovna cet amour ardent, inquiet, tantôt doux et tantôt amer, comme l'absinthe, que j'éprouvais jadis pour elle. Pas davantage non plus de ses querelles, de ses éclats de voix, de ses reproches, de ses plaintes, de ses explosions de haine qui se terminent habituellement par le départ de ma femme pour l'étranger ou dans sa famille, où je lui faisais parvenir alors l'argent, fractionné en petites sommes envoyées fréquemment, afin de blesser le plus souvent son amour-propre. En effet, ma fière et orgueilleuse femme, ainsi que sa famille, vivent de moi, et malgré tout le désir qu'elle en aurait, il lui est impossible de refuser mon argent, ce qui m'a toujours procuré un certain plaisir et constitué ma seule consolation dans mon chagrin. Aujourd'hui, quand nous rencontrons par hasard en bas, dans le vestibule ou dans la cour, je la salue, elle me sourit affablement. Nous causons du temps qu'il fait, nous nous demandons si le moment n'est pas venu de mettre les doubles croisés, nous cherchons à deviner quel est le visiteur qu'un lointain tintement de clochette nous annonce. Et pendant que nous entretenons ainsi de ces choses indifférentes, je déchiffre sur son visage sa pensée qu'elle ne dit pas. Je vous suis fidèle, je ne déshonore pas votre nom honorable, que vous aimiez tant, et vous êtes assez intelligent pour ne pas m'ennuyer. Nous sommes quittes. Je m'étais persuadé que mon amour était depuis longtemps éteint dans mon cœur et que le travail m'absorbait trop pour que je puisse encore songer tant soit peu à ma femme. Mais, hélas, ce n'était au fond qu'une illusion. Quand ma femme, en bas, parlait un peu haut, j'écoutais, je prêtais l'oreille à sa voix, quoiqu'il me fût impossible d'entendre distinctement un seul mot. Quand elle jouait du piano, je quittais ma place pour écouter encore. Quand il avançait la voiture, qu'on lui amenait son cheval de selle, je m'approchais de la fenêtre et j'attendais pour la voir sortir de la maison, puis monter en voiture ou à cheval et disparaître dans la porte cochère. Je sentais que quelque chose de singulier se passait dans mon âme et que mon visage et l'expression de mes yeux me trahissaient. Je suivais ma femme du regard quand elle quittait la maison, puis j'attendais son retour pour voir de nouveau par la fenêtre sa figure, ses épaules, son manteau, son chapeau. J'éprouvais de l'ennui et de la tristesse. J'avais un regret infini de quelque chose. J'éprouvais l'envie de pénétrer en l'absence de ma femme dans son appartement et d'y rester un peu. Et je désirais aussi vivement que le malentendu provoqué entre elle et moi par l'incompatibilité de nos caractères se résolut au plus tôt, de la manière la plus naturelle, c'est-à-dire que cette jeune femme de 27 ans vieillit bien vite et que ma tête à moi devint bien vite blanchissante et chauve. Un jour au déjeuner, mon intendant Vladimir Prokhovitch m'annonça que les moujiks de Pestrovo avaient déjà commencé à enlever le chaume de leur toit pour en nourrir leur bétail. Mademoiselle Marie me regarda avec une expression de peur. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» lui dis-je. « Je suis seul et jamais encore je n'ai éprouvé comme aujourd'hui ce que c'est que la solitude. Oh, je donnerais beaucoup pour trouver dans le district un seul homme sur lequel je pourrais compter. »« Mais voyez Ivan Ivanitch !» dit Mademoiselle Marie. « Mais savez-vous que c'est une idée ?» m'écriai-je avec joie. « Mais c'est une idée !» C'est une idée! Après le déjeuner, j'écrivis à Ivan Ivanitch pour le prier de bien vouloir passer chez moi. De tous ceux amis aux relations qui, il y a 25 ou 35 ans, venaient dans cette maison, y mangeaient et buvaient, y arrivaient pendant le carnaval, masqués et travestis, s'y aimaient, s'y mariaient, s'y rebattaient mutuellement les oreilles avec leurs histoires de meutes ou de chevaux de course, seul maintenant survivait Ivan Ivanitch Broguine. Autant jadis, c'était un homme actif et beau parleur, un peu criard et un peu don Juan. Il était célèbre par ses opinions extrêmes et par une certaine expression de ses yeux, un regard particulier qui avait le pouvoir de charmer non seulement les femmes, mais encore les hommes. Actuellement, il finissait de vivre, vieilli, gonflé de graisse, sans opinion et sans expression. Il arriva chez moi au lendemain de ma lettre, le soir. On venait de servir le samovar dans la salle à manger, et Mademoiselle Marie était occupée à couper un citron. Très heureux de vous voir, mon ami, dis-je gaiement en allant à la rencontre de Braguine. Vous grossissez toujours. Oh, c'est pas moi, dit-il par manière de plaisanterie. Ce sont les abeilles qui m'ont mis dans cet état. Avec la familiarité d'un homme qui se moque lui-même de sa grosseur, il me prit la taille à deux mains et posa sur ma poitrine sa grosse tête molle aux cheveux peignés à la petite russienne, c'est-à-dire avec des sortes de franges sur le front, en riant d'un rire fluet, sénile. Et vous, vous devenez toujours plus jeune, dit-il à travers son rire. Faudrait bien savoir quelle est la teinture que vous employez pour vos cheveux et pour votre barbe. Pensez-moi donc, dites. En soufflant et en s'étranglant, il m'enlaça de ses bras et m'embrassa sur la joue. Pensez-moi donc, répéta-t-il, de votre teinture. Mais dites-moi, bonbon, est-ce que vous avez déjà 40 ans? 40 ans, fis-je en riant, mais j'en ai 46, et bien sonné encore. Ivan Ivanitch sentait le suif et la fumée de cuisine, mais cela lui allait fort bien. Son gros corps, gonflé et balourd, était serré dans une redingote affectant la forme d'un caftan de moudjik, avec des agrafes en guise de boutons et une taille étroite. Il eût été bizarre que, dans cet accoutrement, il sentît l'eau de Cologne, par exemple. Dans ce double menton bleuâtre, depuis longtemps rasé, rugueux comme la ronce ou le chardon, dans ses yeux écarquillés et dans cet essoufflement poussif et dans toute cette figure vulgaire et peu soignée, dans cette voix, dans ce rire, dans ses propos, il était difficile de reconnaître le jeune homme svelte et beau parleur, à propos duquel, jadis, presque tous les maris du district faisaient à leurs femmes des scènes de jalousie. J'ai grand besoin de vous, mon ami, lui dis-je, quand nous fûmes assis dans la salle à manger, en train de prendre du thé. Oui, je voudrais organiser des secours aux affamés, une assistance régulière, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, j'ai pensé que vous seriez peut-être assez aimable pour me donner des conseils. Ah oui, dit Ivan Ivanitch en soupirant. Bien. Oh, je ne me serais point permis de vous déranger, mais à part vous, il n'y a personne ici, mon cher, à qui je puisse m'adresser utilement en cette circonstance. Vous savez bien vous-même quelle sorte de gens il y a ici. Bien, oui. La délibération à laquelle j'avais convié Ivan Ivanitch était d'un ordre très sérieux, et chacun, indépendamment de ses relations, pouvait y prendre part. Je songeais dès lors qu'il serait peut-être utile d'y appeler également Natalia Gavrilovna. Tres facunt collegium. Trois font un collège, dis-je d'un ton gai. Si nous prions Natalia Gavrilovna de venir prendre part à notre entretien, qu'en pensez-vous? Fainéant, criai-je à la bonne, allez prier madame de venir ici. Si elle peut, dites-lui que c'est pour une affaire très importante. Quelques instants après, Natalia Gavrilovna survint. Je me levai pour la recevoir. Oh, excusez-moi, Natalia, de vous avoir dérangé. Nous sommes en train de délibérer, Ivan Ivanovitch et moi, sur une affaire de grande importance, et nous avons songé, idée heureuse, que vous pourriez nous aider beaucoup de vos bons conseils. Asseyez-vous, je vous prie. Ivan Ivanovitch baissa la main de Natalia Gavrilovna et elle l'embrassa sur sa tête. Puis, quand nous fûmes tous assis autour de la table, il se pencha vers elle et la regardant d'un air larmoyant et béat, lui baisa la main de nouveau. Elle était habillée de noir, très soigneusement coiffée, et elle exhalait de frais parfums. Visiblement, elle était sur le point de sortir ou attendait quelques visites lorsque je l'avais fait appeler. En entrant, elle me tendit la main d'un geste simple et amical et eut pour moi le même sourire affable que pour Ivan Ivanitch. Cela me plut beaucoup. Mais en causant, elle faisait marcher ses doigts, se rejetait tout le temps en arrière d'un mouvement brusque et parlait vite. Cette nervosité de gestes et de propos m'irritait, me rappelant son pays, Odessa, où autrefois la société masculine et la société féminine me fatiguaient également par leur mauvais genre. « Oui, je voudrais faire quelque chose pour les affamés, commençai-je. L'argent, sans doute, est une chose importante. L'argent, c'est le principal. Mais il n'est pas tout. Se border à un don d'argent et s'en tenir là, ce serait volontairement s'éviter tout autre souci, se dérober à tout autre devoir. Or, l'aide la plus efficace que l'on puisse apporter aux affamés, ce serait surtout d'organiser rationnellement les secours pécuniaires ou autres. Voilà la question à résoudre. Tâchons ensemble de trouver une solution. » Natalia Gavrilovna jeta sur moi un regard interrogateur comme pour dire « Mais qui puis-je, moi ?»« Oui, oui, la famine, bredouilla Ivan Ivanitch. En effet, oui, oui. » « Mais la situation est grave, dis-je, et les secours doivent être distribués au plus tôt. La rapidité devrait même être la première des règles que nous allons élaborer. Nous devons nous inspirer de la devise militaire. Coup d'œil, promptitude, attaque. »« Oui, promptitude, balbutia Ivan Ivanitch d'une voix somnolente et molle, comme s'il allait s'endormir. « C'est bon !» confirma-t-il, il n'y a rien à faire. La récolte est nulle. Il n'y a pas de coup d'œil ni d'attaque qui puisse maintenant en faire sortir une du sol. Ce sont les événements, que voulez-vous. Rien à faire contre Dieu et contre le destin. Pardon, l'homme possède la raison pour lutter contre les éléments. Oui, ça c'est vrai, vrai, oui. Ivan Ivanitch éternua dans son mouchoir, ce qui le ranima instantanément. Il nous regarda, ma femme et moi, comme s'il venait de se réveiller. « Bon, chez moi, la récolte a été tout aussi inutile, nulle, » dit-il en riant et en clignant des yeux, l'air malin, comme si ce qu'il disait de sa voix fluette était réellement très amusant. « Pas d'argent, pas de grain, pas de pain. J'ai des serviteurs plein à la maison, je voudrais les mettre à la porte tous, mais... j'en ai comme pitié. » Natalia Gavrilovna rit aussi, mais elle se mit à interroger Ivan Ivanitch sur ses affaires domestiques. Sa présence à elle me causait un plaisir que je n'avais plus éprouvé depuis longtemps, et je craignais que mon regard ne trahît malgré moi ce sentiment que je tenais à garder caché. Nos rapports étaient tels que, découvert, ce sentiment pourrait être inattendu et ridicule. Ma femme causait avec Ivan Ivanitch et riait, sans prendre garde le moins du monde qu'elle était chez moi et que moi, je ne riais pas. Profitant d'une pause entre leurs répliques, « Alors, que faisons-nous » demandai-je. « J'estime que la première chose à faire, ce serait d'organiser une souscription, et cela au plus tôt. » Nous allons écrire, vous, Natalia et moi, à nos relations de Pétersbourg et de Moscou, pour leur demander leur obol. Et quand nous avons réuni ainsi une somme suffisante, Nous nous occuperons d'acheter de la farine et des fourrages pour les bêtes. Vous, Ivan Ivanich, vous serez assez bon pour organiser la distribution des secours, nous en rapportant tout à fait à votre tact et à votre habileté. Nous nous permettrons seulement, de notre côté, d'exprimer le souhait qu'avant d'accorder un secours, vous ayez pris connaissance sur place de toutes les circonstances caractéristiques pour chaque cas isolé, et aussi, ce qui est fort important, que vous ayez l'obligeance d'exercer votre surveillance sur les répartitions des subsides, de façon à ce que les secours en farine soit accordé réellement à ceux qui en auront besoin et non pas aux fainéants, aux ivrognes ou aux filous. Oui, marmotta Ivan Ivanitch. Bien, bien, bien. Oh non, pensais-je, cette baveuse ruine ne me sera d'aucune aide. Le bonhomme commençait à m'agacer. Que j'en ai plein le dos de ces affamés, continua Ivan Ivanitch, en suçant sa tranche de citron retirée de son thé. Les affamés, j'en ai assez. Tout le monde est mécontent. Ceux qui ont faim sont mécontents de ce qu'ils ont de quoi manger et qui sont rassasiés. Et de même, ceux qui ont du pain sont mécontents de ce qu'ils n'en ont pas, oui. La faim affole les gens, les rend stupides et sauvages. C'est pas une plaisanterie, la faim. Un homme qui a faim est capable de vous dire des sottises. Voler, peut-être même de quelque chose de pire encore, il faut comprendre cela. Ivan Ivanich s'étrangla avec son thé, se mit à tousser et à s'agiter de tout son gros corps, secoué par un rire grinçant qui l'étouffait. Ah, je connais cela, moi, je la connais, reprit-il, en faisant de grands gestes avec ses bras, comme pour chasser loin de lui le rire et la toux qui l'empêchaient de parler. Bien de cela, quelque 30 ans, la disette s'était abattue, comme aujourd'hui sur notre district. Bon, un jour, un de mes amis, Fiodor Fiodorovitch, mort depuis, vient me trouver pour me prier de l'accompagner dans la propriété. Il mit tant d'insistance que, de guerre lasse, j'acceptai, et nous partîmes ensemble. Le soir tombait, il neigeait un peu. Le trajet était assez long et la nuit était tout à fait venue lorsque nous arrivâmes à la propriété de mon ami. Et tout à coup, paf, paf, deux coups de feu étaient tirés sur nous du bois qui longeait la route. Oh, diable! Je sautai à terre et aussitôt je vis un homme qui, les jambes enfoncées jusqu'aux genoux dans la neige, accourait vers moi aussi vite qu'il pouvait. Je le pris d'une main par les épaules, comme ça, et de l'autre, je lui fis lâcher son méchant fusil. Le camarade à lui s'approcha. Alors je lui ai scellé sur la nuque un coup qu'il fit tomber, avec un han, le nez dans la neige. Oh, j'étais très fort alors. J'avais un poing de plomb. Et pendant que je matais les deux bonshommes, Fiodorovitch en couchait par terre un troisième et se mettait un cheval sur son dos. Bref, nous fûmes les bras à nos gaillards, nous les liâmes pour qu'ils ne nous fassent pas de mal et nous emmenâmes ces imbéciles avec nous. Et une fois, l'office, nous les reconnûmes, c'étaient tous les trois de braves garçons de Boudjik, des gens honnêtes. On eût dit que la peur les avait complètement affolés. L'un pleure et nous demande pardon, l'autre nous regarde avec des yeux de fauve et nous insulte. Le troisième enfin s'agenouille et se met à prier Dieu. Alors je dis à Fédor, tu vas pas leur chercher l'oise, laisse-les partir, ces coquins. Il les fit manger, puis donna à chacun un gros sac de farine et leur dit, allez maintenant, foutez-moi le camp. Voilà comment il a agi, lui. Oh, c'était un homme qui comprenait, lui. Mais il y en eut d'autres qui se fâchèrent et qui furent cause de la perte de combien d'existences humaines, que de gens furent jetés en prison. Oui, aujourd'hui, ça m'a tout l'air d'être la même chose. C'est le jeudi dernier, et le juge d'instruction, Anissim, qui a passé la nuit chez moi, m'a raconté au sujet d'un châtelain une jolie histoire. Une nuit, des moudjiks avaient démoli le mur d'un magasin du châtelain en question et avaient volé 20 sacs de farine. Le matin, à la nouvelle de cet incident, le châtelain se précipita au télégraphe et envoya un continent une dépêche au préfet, une autre au procureur, une autre au sous-préfet, une autre au juge d'instruction. Les autorités s'émurent, car naturellement on craint les chicaneurs. Et l'on l'a perquisitionné chez tous les moudjiks dans deux villages. « Permettez, Ivan Ivanitch, dis-je, c'est chez moi qu'on a volé 20 sacs de farine de seigle. C'est moi qui ai télégraphié au préfet. J'ai même télégraphié au ministre. Mais ce n'est pas par amour de la chicane, ni parce que je me serais fâché comme il vous a plu de vous exprimer, mais parce que j'envisage les choses au seul point de vue des principes. Que ce soit un affamé qui vole ou un repu, la loi reste la même. Oui, oui, marmotta Ivan Ivanitch, confus. Sans doute, oui, c'est vrai, oui. Natalia Gavrilovna devint rouge. Il y a des gens, commençait-elle. Elle s'interrompit et s'efforça de prendre un air indifférent, mais elle y parvint point et me regarda dans les yeux avec l'expression de haine qui m'était si connue. « Il y a des gens, reprit-elle, qui ne voient dans la famine et la souffrance humaine qu'une occasion de donner libre carrière à leur mauvais et mesquin caractère. » Je me troublais et je haussais les épaules. « Je veux dire en général, continua-t-elle, qu'il y a des gens totalement indifférents à tout, dépourvus de tout sentiment de compassion, mais qui ne peuvent se désintéresser des souffrances d'autrui et qui s'en mêlent dans la seule crainte que l'on se passe d'eux. Rien n'est sacré pour leur vanité. Il y a des hommes, dis-je doucement, qui possèdent un caractère d'ange, mais qui expriment néanmoins leurs nobles pensées en termes tels qu'il devient malaisé de distinguer l'ange d'une marchande de poissons à la halle d'Odessa. Ce que je venais de dire là n'était pas très heureux, je dois l'avouer. Ma femme regarda d'un air de quelqu'un à qui il en coûte de garder le silence. Pourtant la subite sortie et ses phrases grandiloquentes à propos de mon désir de secourir les affamés étaient à tout le moins déplacées. Ce n'était pas cela que j'avais escompté en la priant de monter chez moi. Je ne saurais dire exactement ce que j'avais attendu au juste, mais cette attente m'avait causé une émotion agréable. Et maintenant, je voyais qu'il serait pénible, même fort peu intelligent, de continuer cet entretien sur les victimes de la famine. « Oui, marmotta Ivan Ivanitch sans rime ni raison. Bourov, le commerçant, possède une fortune d'au moins 400 000 roubles. Alors l'autre jour, je lui dis... « Écoutez, mon cher, pourquoi ne feriez-vous pas un don d'une ou de centaines de mille roubles au profit des affamés? De toute façon, en mourant, vous n'emporterez pas cet argent dans votre tombe. » Mais il a eu l'air vexé, et pourtant, il lui faudra mourir. La mort n'est pas une plaisanterie. » Un nouveau silence se fit. « Alors, dis-je, je dois me résigner à être seul. » « Eh bien, ajoutai-je avec un sourire, quoique on se guéroie point tout seul, je vais cependant l'essayer. Peut-être ma lutte contre la famine se trouvera-t-elle plus efficace que ma guerre contre l'indifférence dont je suis entouré. » « On m'attend chez moi, » déclara Natalia Gavrilovna. Elle se leva et s'adressant à Ivan Ivanitch, « Vous passerez chez moi, n'est-ce pas, tout à l'heure ?» lui dit-elle. « Je ne vous dis pas adieu. » Et elle sortit. Ivan Ivanitch en était à son 7e verre de thé. Il buvait en soufflant, en faisant du bruit avec ses lèvres, en suçant tantôt sa moustache et tantôt sa tranche de citron. Il marmottait quelque chose d'une manière molle et somnolente. Je ne l'écoutais point, attendant le moment où il se déciderait à partir. Enfin, de l'air d'un visiteur qui ne serait venu que pour prendre une tasse de thé, il se leva. En le reconduisant, je lui dis « Alors, vous ne me donnez aucun conseil ?»« Plaît-il ? Ah oui, mais quel conseil voulez-vous que je vous donne ? Je suis vieux et ramolli. Et puis, vous avez tort de tant vous inquiéter au sujet de tout cela. Vraiment, je ne sais pas pourquoi vous vous donnez tant de mal. Vous tourmentez pas, mon cher, écoutez-moi. En somme et à rien, poursuivit-il d'une voix douce et affectueuse, en cherchant de me tranquilliser, comme si j'étais un enfant. Ma parole, il n'y a rien. Mais comment il n'y a rien? Les paysans enlèvent le chaume des toits, et dit-on, le typhus a déjà fait son apparition. Eh bien, quand cela serait? L'année prochaine, la récolte sera bonne, et les moujiks remettront des toits neufs à leur chaumière. Si nous mourons du typhus, d'autres hommes vivront après nous. Et de toute façon, nous mourrons bien un jour. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera dans quelque temps. Vous tourmentez pas donc, mon beau. Mais je ne puis rester indifférent, dis-je tout agacé. Nous étions dans l'antichambre, assez faiblement éclairée. Ivan Ivanitch me prit tout à coup par le coude, et voulant évidemment me dire quelque chose d'important, il me regarda pendant une bonne demi-minute en silence. « Paul Andreïtch, dit-il enfin doucement. Et sur sa figure grasse et reposée, dans ses yeux noirs, s'alluma tout à coup cette expression particulière qui, jadis, faisait sa célébrité et qui était réellement séduisante. « Paul Andreïtch, répéta-t-il, je vous dirai en ami, changez votre caractère. On se sent mal à l'aise avec vous. Mal à l'aise, mon très cher. » Il me regarda fixement, puis l'expression ravissante de son visage s'éteignit. Son regard redevint terne et il se remit à marmotter de sa façon habituelle, molle et somnolente. « Oh, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Excusez-moi, je suis vieux, oui. » Et en descendant à pas lourds les marches de l'escalier, les bras écartés afin de garder l'équilibre, il me montrait son énorme dos gras et sa nuque rouge, en me donnant l'impression désagréable de je ne sais quel gigantesque crabe. « Vous feriez mieux d'aller quelque part, Excellence, à Pétersbourg ou à l'étranger, » marmonnait-il. « Oui, vous ne faites que gâcher un temps précieux. Vous êtes un homme jeune, robuste, riche, oui. Oh, si je n'étais pas si vieux, il y a longtemps que je me serais sauvé d'ici comme un lièvre, le vent sifflant à mes oreilles. » La sortie de ma femme me rappela toute notre existence conjugale. Jadis, après chaque incident de cette sorte, nous étions invinciblement attirés l'un vers l'autre, et à peine réunis, nous déchargions l'un sur l'autre toute la réserve de dynamite qui, à la longue, s'était emmagasinée dans notre âme. Maintenant, après le départ d'Ivan Ivanitch, je ressentis cette ancienne attraction qui me poussait vers ma femme. J'éprouvais l'envie de descendre chez elle et de lui dire que sa conduite au thé m'avait blessé, qu'elle était cruelle, mesquine, et qu'avec son intelligence de petite bourgeoise, elle n'avait jamais été capable de se hausser jusqu'à la compréhension de ce que je disais, moi, de ce que je faisais, moi. Je marchais longtemps à travers mon appartement, cherchant les paroles que je lui dirais, essayant de préjuger ses réponses. Cette inquiétude qui, ces derniers temps, m'oppressait, je la ressentis sous une forme particulièrement aiguë ce soir-là, après le départ d'Ivan Ivanitch. Je ne pouvais rester assis ni debout, et je marchais sans arrêt dans mon appartement, choisissant les pièces éclairées, et principalement celle où se tenait Mademoiselle Marie. J'éprouvais un sentiment pareil à celui que j'avais connu un jour, en pleine mer du Nord, pendant une tempête, alors que tout le monde craignait que le bateau, manquant de lest, ne se renversât dans l'abîme. Et je compris ce soir-là que mon inquiétude n'était pas du dépit, comme je l'avais d'abord supposé, mais quelque chose d'autre, sans que je puisse comprendre ce que c'était. Et cela m'agaçait encore davantage. « Je vais descendre chez elle, décidai-je. Je pourrai trouver toujours un prétexte. Je dirai que j'ai besoin de revoir Ivan Ivanitch. » Je descendis et, sans hâte, marchant sur les tapis, je traversai l'antichambre, le grand salon. Ivan Ivanitch était assis dans le petit salon. Il buvait encore du thé et marmottait je ne sais quoi. Ma femme se tenait en face de lui, debout, appuyée sur le dossier d'un fauteuil. Son visage avait cette expression douce, calme et condescendante avec laquelle on écoute les faibles d'esprit et les démons tranquilles dans les propos insignifiants et dans le balbutiement desquels on croit découvrir un sens caché et profond. Il y avait dans la pose et dans le visage de ma femme elle-même quelque chose qui me faisait penser à une psychopathe ou à une religieuse. Avec leurs meubles anciens, leurs plafonds bas, leurs oiseaux endormis dans leurs cages et leur odeur de géranium, les pièces, à moitié sombres et très chaudes, faisaient songer à la retraite d'une prieure ou de quelque veuve de général, vieille et dévote. J'entrai dans le petit salon. Ma femme ne se montra ni surprise ni troublée. Elle me regarda tranquillement, avec sérénité, comme si elle avait su que je viendrais. « Pardon, dis-je doucement. Oh, je suis très heureux, Ivan Ivanitch, que vous soyez encore là. J'avais oublié de vous demander le nom du président de notre Zemstvo. Il s'appelle Andrei Stanislavovitch. Oui. Merci, dis-je. Et tirant de ma poche un carnet, je notai ce nom. Un silence se fit. Ma femme et Ivan Ivanitch attendaient sans doute que je fusse parti pour reprendre leur entretien. Ma femme ne croyait pas que j'eusse eu besoin du nom du président du Zemstvo. Je le voyais à ses yeux. « Alors, je m'en vais, ma belle, » dit Ivan Ivanitch, lorsqu'après quelques allées et venues dans la pièce, je me fus assis dans un fauteuil. Non, non, dit vivement ma femme, encore un quart d'heure, je vous en prie. Évidemment, elle ne voulait pas rester seule avec moi. Oh, que cela ne tienne, me dis-je à part moi, j'attendrai bien un quart d'heure. Oh, il neige, fis-je en me levant et en regardant par la fenêtre. Quelle superbe neige! Ivan Ivanitch, continuai-je en me promenant dans le salon. Oh, je regrette beaucoup d'être pas un chasseur. Je m'imagine quel plaisir doit être la chasse aux lièvres et aux loups sur une neige pareille. Ma femme, debout à la même place et sans tourner la tête, épiait seulement mes mouvements par des regards en coulisses. Sa figure exprimait de l'appréhension, comme si Natalia Garilovna eût supposé que je cachais dans ma poche un couteau ou un revolver. « Ivan Ivanitch, continuai-je doucement, emmenez-moi un jour avec vous à la chasse. J'en serai très, très reconnaissant. » En ce moment, entra dans le salon un visiteur. C'était un monsieur que je ne connaissais pas, d'une quarantaine d'années, grand, replet, chauve, avec une longue barbe blonde et de petits yeux. À ses vêtements mal faits et à ses manières, je le pris pour un instituteur, mais ma femme me le présenta en nommant le docteur Sobol. « Enchanté, enchanté de faire votre connaissance !» dit le docteur d'une voix claire de ténor, en me serrant fortement la main et en souriant naïvement. « Enchanté !» Il s'assit à la table, prit un verre de thé et dit de sa voix claire « Mais vous n'auriez point par hasard un peu de rhum ou de cognac ?» Et, s'adressant à la bonne, « Hola, dit-il, soyez charitable, cherchez-en donc dans le buffet. Oh, je suis transi de froid. » Je me rassis près de la cheminée. Je regardais et j'écoutais, en plaçant de temps à autre un mot dans la conversation générale. Ma femme souriait affablement à ses invités et m'épiait attentivement, comme on épie une bête fauve. Ma présence lui était désagréable, et cela excitait ma jalousie, me causait du dépit et m'inspirait l'envie, oh une envie obstinée, de lui faire du mal. Ma femme, me disais-je, et ses pièces intimes et ce coin confortable près de la cheminée, mais tout cela est à moi depuis longtemps. Mais pourtant, un Ivan Ivanovitch à moitié idiot, ou le premier Sobol venu, ont plus de droits sur cela que moi. En ce moment, je le vois, ma femme, non plus par la fenêtre, mais près de moi, dans son cadre domestique habituel, dans ce cadre même dont, précisément, à mon âge mûr, j'aurais actuellement besoin, et en dépit de la haine qu'elle nourrit à mon égard, je languis d'elle comme étant enfant. Je languissais l'autre fois de ma mère et de ma nourrice, et je sens qu'aujourd'hui, au seuil de la vieillesse, je l'aime d'un amour plus pur et plus élevé que jamais. Et c'est pour cela que je voudrais m'approcher d'elle, lui mettre un talon sur la pointe d'un pied, en appuyant fortement, de la faire souffrir, et sourire en le faisant. « Monsieur Castor, » dis-je au docteur. « Monsieur Sobol, » rectifia ma femme. « Combien d'hospices avons-nous dans notre district ?»«
Nous en avons deux, » répondit le médecin.
« Et combien de morts y a-t-il chaque année dans chacun de ces établissements ?»«
Paul Andreïtch, je voudrais vous dire deux mots, » intervint ma femme en se tournant vers moi.
Elle s'excusera auprès de ses invités et passa dans la pièce à côté. Je l'y suivis.
« Vous allez remonter chez vous à l'instant même, » me signifia-t-elle.
« Oh, vous êtes mal élevé, » lui répliquai-je.
« Mais vous retournerez chez vous tout de suite, » répéta-t-elle d'un ton coupant.
Et elle me regardait avec haine. Elle était si près de moi que, en me penchant un peu, ma barbe aurait pu toucher son visage. « Mais enfin, pourquoi ? » répondis-je. « Quel crime ai-je commis ?» Son menton se mit à trembler. Elle s'essuya les yeux en hâte, se regarda furtivement dans une glace et me dit à voix basse.
« Mais vous recommencez les anciennes histoires. Vous ne voulez pas vous en aller. Bon, ben c'est bien, restez donc. C'est moi qui m'en irai. »
La mine décidée rentra dans le petit salon. Je l'y suivis encore, haussant les épaules et m'efforçant de sourire ironiquement. Nous y trouvâmes de nouveaux invités, une dame âgée et un jeune homme en lunettes. Sans saluer personne, je quittai la pièce et je retournai chez moi. Après ce qui s'était passé chez moi, au thé, et ensuite en bas, chez ma femme, il devenait évident pour moi que cette paix du ménage, que nous commencions à oublier depuis ces deux dernières années, allait recommencer à la suite de circonstances stupides et futiles, que ni elle ni moi nous ne pourrions plus nous arrêter, que demain ou après-demain, ce premier regard de haine entraînerait ainsi, que j'en pouvais juger par l'expérience des années passées, quelque chose d'affreux qui renverserait, jetterait à terre tout l'ordre de notre existence. Alors, me disais-je en arpentant mes appartements, alors ces deux années ne nous ont rendus ni plus intelligents, ni plus indifférents, ni plus calmes. Alors, de nouveau, il y aura des larmes, des cris, des malédictions, des mal bouclés, des voyages à l'étranger. De nouveau, j'éprouverai la peur constante et maladive qu'elle pourrait là-bas, à l'étranger, me tromper avec quelque bellâtre italien ou russe. De nouveau, je lui refuserai son passeport. De nouveau, je lui écrirai, et dans une complète et désolante solitude, je languirai d'elle. Et dans 5 ans, ce sera la vieillesse, des cheveux gris. Je marchais à travers les pièces, en imaginant ce qui ne pouvait pas être, en me la figurant, elle, jolie et pimpante, enlaçant de ses bras un homme que je ne connaissais pas. Et déjà sûr que cela arriverait un jour, je me demandais avec désespoir pourquoi, lors de l'une des querelles passées, je n'avais pas divorcé
Pourquoi ne m'avait-elle pas quitté, elle, tout à fait, une fois pour toutes? Je n'aurais pas ce malaise aujourd'hui, ni cette inquiétude, ni cette haine, et je finirais de vivre en travaillant paisiblement, et sans songer à rien. Dans la cour pénétra une voiture fermée avec deux lanternes allumées, puis un large traîneau attelé d'une troïka. Évidemment, il y avait une soirée chez ma femme. Jusqu'à minuit, tout demeura calme en bas. Du moins, je n'entendis rien. Mais à ce moment-là, on remua des chaises et un bruit d'assiettes et de couverts arriva jusqu'à mes oreilles. On soupait, puis on remua de nouveau les sièges et j'entendis des exclamations. Il me sembla qu'on criait « bravo » ou « hurra ». Mademoiselle Marie dormait déjà. J'étais seul dans tout l'appartement. Au salon, me regardaient du haut de leurs cadres sur les murs les portraits de mes ancêtres, gens insignifiants ou cruels, tandis que dans mon cabinet, le reflet de ma lampe dans une vitre de croisée semblait me le cligner de l'œil désagréablement. Avec un sentiment d'envie et de jalousie, j'écoutais ce qui se passait en bas et je me disais « Mais le maître ici, c'est moi !» Si je voulais, je pourrais en un instant mettre à la porte toute cette honorable société. Mais je savais bien que c'était des sornettes, que je ne pouvais mettre à la porte personne, et que le mot maître ne signifiait rien dans ce cas. On peut se croire, tant qu'on veut, maître, homme marié, riche, dignitaire de la cour, et ne pas savoir néanmoins ce que cela veut dire. Après le souper, une voix de ténor chanta en bas. Mais rien ne s'est passé, essayai-je de me persuader à moi-même. Pourquoi m'agiter de la sorte? Demain, je n'irai pas la voir, et voilà tout. Notre cœur, elle n'aura pas de suite. À 1h15, je me couchai. Les invités sont déjà tous partis, demandai-je à mon valet de chambre, Alexis, qui m'aidait à me déshabiller. « Oui, monsieur, tout le monde est parti. »« Et pourquoi ?» criait-on « Hourra !»« Ah, monsieur Bachanov a dit qu'il donnait au profit des affamés 1 000 pounds de farine, 16 000 kilogrammes, et 1 000 roubles en argent. »« La vieille dame aussi, je ne connais pas son nom, a promis d'organiser... dans sa propriété, un réfectoire pour 150 personnes, Dieu soit loué. Et Natalia Gavrilovna a décidé que tout le monde se réunirait chaque vendredi. Ici, en bas? Oui, monsieur. Avant le souper, on a lu un papier. Depuis le mois d'août jusqu'à ce jour, on a recueilli environ 8 000 roubles, sans compter la farine. Dieu soit loué. J'estime que madame pourra réunir beaucoup de fonds, car il y a bien des gens riches dans le pays. Après avoir renvoyé Alexeï, je soufflai la lumière et je m'enfouis dans mes couvertures. En effet, me dis-je, mais qu'est-ce que j'ai à me tourmenter? Quelle force me pousse vers les affamés, comme un papillon vers la lumière? Je ne les connais pas, après tout, les affamés. Je ne les ai jamais vus, je ne les aime pas. Mais d'où me vient donc cette inquiétude? Mais quelle femme, me dis-je en songeant à Natalia Gavrilovna, en cachette de moi, organiser tout un comité. Mais pourquoi se cache-t-elle de moi? Pourquoi ce complot? Mais que leur ai-je fait à tous? Oh, Ivan Ivanitch a raison. Il faut que je parte. Le lendemain, je me réveillai avec la résolution ferme de partir au plus tôt. Les détails de la journée précédente, la conversation au thé, ma femme, Sobol, le souper, mes peurs, tout cela m'obsédait. J'étais content à l'idée que bientôt je serais débarrassé des gens et des choses qui causaient cette obsession. Pendant que je prenais mon café, mon intendant vint me faire son rapport et me parla longuement de toutes sortes d'affaires. Il garda pour la fin la chose la plus agréable. Bien les voleurs qui nous ont volé la farine viennent d'être découverts, dit-il avec un sourire. Hier, à Piestrovo, le juge d'instruction a arrêté 3 moujiks. Allez au diable! Criai-je exaspéré de colère. Et sans raison apparente, je saisis la corbeille aux biscuits que je jetai à terre.